Nous sommes le lundi 30 mars. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Inter. Jérôme Cadet, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, pas assez de masques, des aires de repos fermées ou pas nettoyées. Les chauffeurs routiers dénoncent leurs conditions de travail depuis le début du confinement. Trois de leurs syndicats les appellent à exercer leur droit de retrait à partir d'aujourd'hui. On voit ça en détail après les autres titres.
Le portable pour suivre à la trace les malades du Covid-19 et leurs proches. La France réfléchit à l'utilisation du tracking, explication de Sophie Becherel. Donald Trump qui se résigne, plus question d'appel au rassemblement pour les fêtes de Pâques. Les mesures d'éloignement prolongées aux États-Unis jusqu'à fin avril, nous serons à New York. Et puis comment suivre les cours à distance quand on n'a pas d'ordinateur chez soi? À Rennes, des profs se mobilisent pour aider leurs élèves.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Le microbe est de retour, l'Europe fait face à un danger mortel, a dit Jacques Delors ce week-end, sortant exceptionnellement de son silence. L'Europe trop absente, l'Europe trop égoïste dans cette crise. On en parle à 7h50 avec le franco-allemand le plus haut en couleur. Daniel Cohn-Bendit sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, le grand entretien avec le professeur Xavier Lescure, médecin infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris, et le professeur Stéphane Gaudry, spécialiste de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Vos questions, le standard est ouvert, 01 45 20 24 7000.
France Inter.
Prendre une douche, trouver des toilettes propres, manger un repas chaud, impossible ou presque pour les routiers depuis le début du confinement et la fermeture des aires d'autoroute. Des chauffeurs extrêmement sollicités, notamment pour acheminer la nourriture, mais qui demandent davantage de protection. Trois syndicats, FO, CFDT, CFTC, les appellent à exercer leur droit de retrait à partir d'aujourd'hui. Des syndicats qui ont rendez-vous à la mi-journée au ministère des Transports, Maxime Debs.
15 jours que les routiers prennent tous les risques, il faut voir dans quelles conditions. Patrick Blaise de la CFDT.
Il n'y a pas de masque pour tout le monde, alors qu'on est les soldats du deuxième rang. C'est comme si vous envoyiez en temps de guerre, comme le président l'a dit, on envoie les soldats mais sans fusil.
Les routiers qui ne demandent pas grand-chose, disent-ils, simplement le minimum sur les aires d'autoroute pour pouvoir exercer dignement leur métier.
Que les douches et les sanitaires soient entretenus comme ils devraient l'être. Vous avez encore beaucoup d'endroits où il y a un écriteau et où clairement il est écrit que les douches sont dans l'état qu'elles sont, les sanitaires dans l'état qu'ils sont. Mais attendez, c'est scandaleux.
Les syndicats qui demandent à l'État la réquisition des aires de repos, des relais routiers, des stations essence, là où le service ne peut être assuré, puisqu'on nous dit qu'on est en guerre. En guerre, on peut tout faire, estime Thierry Douin de la CFTC.
On peut pas dire. La propagation du virus est en train de partir à une vitesse extraordinaire. Et derrière ça, ne pas mettre les barrières nécessaires pour protéger les gens qui travaillent. On accepte de travailler. C'est normal de servir la population. On l'a bien compris. Mais en même temps, on ne peut quand même pas se permettre de faire payer les salariés au péril de leur vie au quotidien.
Les syndicats qui insistent bien, leur action n'est pas un appel à la grève. On n'est pas des fous furieux, simplement des gens consciencieux qui veulent donner aux salariés les moyens de se protéger s'ils se sentent en danger.
Maxime. Les travailleurs indépendants, eux, vont pouvoir bénéficier d'une aide complémentaire allant jusqu'à 2000 euros en cas de chômage partiel. Le décret doit entrer en vigueur cette semaine.
Il est 7h03, les soignants les réclament depuis 10 jours, des masques sont arrivés de Chine hier soir.
100 tonnes de matériel médical, dont 5 millions de masques à bord d'un avion Air France en provenance de Chine. Il en faudrait 40 millions par semaine, rien que pour les soignants, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les hôpitaux font face à une forte augmentation du nombre de malades, 359 admis en réanimation sur la seule journée d'hier. La vague touche notamment l'Île-de-France et pour l'instant, la digue tient, nous dit le professeur Alain Cariou, réanimateur, référent Covid à l'hôpital Cochin à Paris. Véronique Julien l'a joint hier.
Il ne savait pas vendredi dernier s'il pourrait encore accueillir du monde ce week-end. Dans son service, on arrivait à saturation et puis finalement le travail a payé. Le professeur Alain Cariou a pu ouvrir hier une dizaine de lits de réanimation supplémentaires. Ça suppose le renfort de plus d'une vingtaine de paramédicaux, infirmiers et aides-soignants.
Il y a un appel à personnel venant de province. Il y a des jeunes médecins qui ont accepté d'endosser des rôles d'aides-soignants. C'est vraiment cette mobilisation massive qui fait que pour l'instant on y arrive.
Les trois quarts des patients accueillis à l'hôpital Cochin ce week-end ne viennent pas du centre de Paris. Ils ont été envoyés par les hôpitaux du nord de la capitale qui, eux, sont déjà complètement saturés.
Aulnay-sous-Bois, Gonesse, tous les hôpitaux plutôt du 93. Peut-être le confinement a moins bien marché. Peut-être aussi parce qu'il y a une densité de population très très élevée.
Autre interrogation du professeur Cariou, les patients que les urgences lui envoient ne sont pas très âgés, moins de 80 ans. Font-elles un tri en amont? C'est possible.
En tout cas, on observe une diminution de la moyenne d'âge. Et les patients qu'on nous propose actuellement sont plutôt des gens qui ont aux alentours de 60 ans en moyenne.
Après 15 jours très intenses, le professeur Alain Cariou reconnaît que son équipe est moralement fatiguée. Le service a enregistré son premier décès Covid hier. Il en redoute quelques autres cette semaine. Les sorties de patients dont l'état s'améliore sont encore rares. Seul motif de satisfaction, les entrées continuent d'augmenter, mais depuis hier un tout petit peu moins vite que les jours précédents.
Le Covid-19 a tué 292 personnes hier en France. Le bilan depuis le début de l'épidémie s'élève à 2606 morts. Inquiétude ce matin pour le chanteur Christophe, hospitalisé à Paris depuis jeudi, admis dans un service de réanimation. Il souffre, selon son entourage, d'une insuffisance respiratoire. Pour éviter la propagation du virus, la France pourrait mettre en place une nouvelle méthode. Le tracking, autrement dit suivre à la trace les personnes contaminées et leurs proches grâce à leur portable. La Corée du Sud, Taïwan et Singapour l'ont déjà expérimenté. Elle pourrait être utilisée en France au moment de la sortie du confinement. Le nouveau comité scientifique étudie cette option depuis la semaine dernière, Sophie Brecherel.
L'usage des téléphones portables pour suivre les gens infectés et leurs contacts a fait ses preuves en Asie. Les Français, eux, semblent peu enclins à l'accepter au nom des libertés individuelles. Néanmoins, il y aurait un intérêt à utiliser les données de mobile, estime Didier Guillemot, spécialiste des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur.
L'utilisation du tracking, par exemple, des téléphones portables, peut avoir un intérêt épidémiologique important pour avoir une image bien plus précise que celle qu'on a de la prévalence de l'infection dans la population et l'immunité de la population, notamment dans une perspective de déconfinement.
Faute d'avoir assez de tests, on pourrait, en détectant la présence de téléphones, savoir où sont les gens et où il faut aller pour constituer un échantillon représentatif de la population. Ici, quelques badauds et peu de contacts. Là, au contraire, dans ce supermarché, une grande promiscuité. Didier Guillemot s'apprête par ailleurs à équiper 200 personnes dans une dizaine d'hôpitaux français avec un petit capteur. Dès que les personnes, soignantes ou pas, s'approchent à moins d'un mètre, les capteurs se parlent. Ainsi, on peut retracer les contacts entre humains.
L'idée, c'est de simuler le risque de dissémination à l'hôpital du coronavirus. Et donc, à partir de là, de tester sur ordinateur des stratégies visant à diminuer sa circulation.
In fine, les modèles informatiques pourront dire si tel comportement barrière a mieux fonctionné qu'un autre et quelle stratégie il convient d'adopter.
Sophie Bécherel, à court terme, pour lutter contre le virus, certains scientifiques demandent la possibilité de prescrire de la chloroquine. L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, elle met en garde contre l'automédication des personnes présentant des symptômes et ayant eu recours à ce médicament sans prescription ont dû être placées en réanimation pour des cas de toxicité cardiaque.
La chloroquine qui sera désormais donnée dans les hôpitaux des États-Unis.
Oui, le régulateur du médicament américain donne son feu vert face à l'avancée rapide du virus dans le pays. 137 000 personnes infectées, 2400 morts, ville la plus touchée. New York, et après avoir évoqué l'idée d'une relance de l'économie dans deux semaines, Donald Trump a fait marche arrière hier à New York, Loïc Loury.
Le président américain souhaitait voir les églises pleines pour les fêtes de Pâques. Est-ce que ce ne serait pas génial? S'était-il exclamé la semaine dernière. Mais Donald Trump, poussé par ses nombreux détracteurs et face à l'urgence de la situation sanitaire, a finalement renoncé à ce plan intenable. Il s'est exprimé hier soir lors d'un point presse sur l'une des pelouses de la Maison-Blanche. Le pic de victimes devrait intervenir dans deux semaines. Rien ne serait pire que de crier victoire avant l'heure. Ce serait pour le plus grand malheur de tous. Ce cauchemar finira par prendre fin, mais en attendant, nous étendons nos consignes jusqu'au 30 avril pour ralentir la propagation. Le président américain visiblement a retrouvé la raison alors que l'Amérique se prépare au pire avec près de 140 000 cas. Les États-Unis sont le pays le plus touché en nombre de malades. Le bilan humain, 2400 morts, lui a doublé depuis mercredi. Et cela ne devrait être qu'un début selon les chiffres évoqués hier par Anthony Fauci, membre de la task force présidentielle. Tout en rappelant qu'il ne s'agissait là que de projections, le médecin a évoqué une fourchette allant de 100 à 200 000 victimes. victimes. New York, Loïc Loury, France Inter.
New York, où un hôpital de campagne est en cours d'installation dans Central Park, l'un des lieux emblématiques de la ville. En Espagne, la situation s'aggrave. 838 morts entre samedi et dimanche. En Italie, la progression du virus semble ralentir. Les arrivées de patients dans les hôpitaux sont moins nombreuses. À Moscou, le confinement débute aujourd'hui. Même chose à Lagos, la plus grande ville du Nigeria. 20 millions d'habitants.
Le confinement qui change, Jérôme, nos habitudes de consommation.
On s'en doutait, on en a maintenant le détail grâce à une étude du cabinet Fox Intelligence qui mesure l'activité des entreprises du commerce en ligne. Étude que vous révèle France Inter. Laurent Kramer, nos manières d'acheter et de nous divertir sont en pleine mutation.
Premier constat, l'arrivée massive des femmes sur les jeux vidéo en ligne, multipliée par 6 depuis le confinement, avec pour l'essentiel de nouvelles gameuses, à l'instar de Marie, 35 ans.
Moi, j'étais pas du tout attirée par les jeux vidéo, hein. C'était plutôt quelque chose qui m'agaçait. Hein. Et avec le confinement, finalement, je me suis piquée au jeu et puis j'ai découvert le jeu vidéo.
Deuxième constat, les habitudes de consommation en ligne des Français ont également changé depuis le confinement, avec la livraison alimentaire à domicile. La grande distribution ne tient pas le choc face à Amazon, explique Édouard Natté du cabinet Fox Intelligence à l'origine de cette étude.
Le grand gagnant de ce confinement, c'est Amazon qui est en train d'augmenter sa part de marché sur l'alimentaire et le non-alimentaire. Ce qui est plus surprenant encore, c'est que la dernière génération qui résistait encore un peu à Amazon, celle de 25-40 ans, est en train de se tourner massivement vers Amazon et on peut imaginer qu'à la sortie de la crise, la suprématie d'Amazon sera renforcée.
Troisième constat de l'étude Fox Intelligence, contrairement aux espoirs du secteur, les livraisons de repas à domicile ne sont pas portées par le confinement et sont en réalité en chute libre avec moins 45%.
Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer et ce qu'attendaient les restaurateurs, la livraison de repas à domicile ne sera pas la bouée de sauvetage des restaurateurs.
Avec des Français qui, à l'inverse, redécouvrent la cuisine et leurs recettes à la maison depuis le confinement.
Là, pas question de livres de cuisine, mais d'école. Troisième semaine de cours à la maison pour les écoliers. Alors les livres, tous les petits Français en ont. Ce n'est pas le cas des ordinateurs, pourtant nécessaires à l'apprentissage à distance. À Rennes, par exemple, dans le quartier du Blône, depuis quelques jours, les enseignants sont à la recherche d'ordinateurs d'occasion pour les familles les plus pauvres. Reportage Nina Valette.
Bruno habite ce quartier populaire rennais depuis plus de 20 ans. Représentant des parents d'élèves, il a même été sollicité pour aider les familles les plus en difficulté.
J'ai eu un appel d'une institutrice qui cherche des ordinateurs portables pour des enfants en primaire, donc en CM1. Des familles nombreuses, soit ils n'ont pas d'ordinateur, soit ils sont plusieurs sur un ordinateur. Et donc c'est un peu compliqué pour elles d'arriver à faire suivre tous les enfants le programme.
Après avoir alerté les parents, la mairie, le rectorat et bien Mireille Buffière, la directrice de l'école élémentaire Eugène Gulvic, toujours quartier du Blon à Rennes, lance un appel pour aider ses élèves en zone prioritaire renforcée.
On fait ce qu'on peut là pour essayer d'équiper au maximum les familles, si je suis entendue, qu'il y ait des gens qui puissent prêter des ordinateurs portables ou une entreprise ou pour qu'on puisse doter certaines familles. Je pense qu'on a à peu près une trentaine de familles qui auraient ce besoin-là.
Une trentaine de familles dans le besoin et ce n'est que pour cet établissement rennais. Imaginez alors à l'échelle de la Bretagne ou bien de la France. Alors si vous avez du matériel, entre autres tablettes, ordinateurs et que vous pouvez les prêter, n'hésitez pas à vous rapprocher des établissements scolaires.
Nina Valette, et pour les 13 millions de Français qui ne savent pas se servir d'Internet ou d'un ordinateur, le gouvernement met en place une ligne téléphonique, annonce faite hier soir sur Inter. La ligne téléphonique est la suivante, 0170 772 372. Sur les écrans, justement, Canal Plus en clair, c'est bientôt terminé à la demande du CSA. Canal va repasser en crypté demain soir. Si vous n'êtes pas abonné, il ne vous reste donc plus qu'une journée pour découvrir la première série française sur le rap. Son nom validé, créé et réalisé par le comédien Franck Gastambide. Corinne Pélissier.
Impossible d'imaginer une série sur le rap sans ses codes et ses rivalités. Ici, le phénomène Apache, jeune prodige dont on va suivre l'ascension contrariée par un géant du milieu, Mastar.
Et notre artiste, vous le connaissez, c'est l'un des poids lourds du rap français. 12 albums, 5 mixtapes. Bienvenue à toi, Mastar.
De personnages de fiction pour un affrontement sans merci, à coups de tube et de clash en série sur les réseaux sociaux, mais aussi parfois très éloigné du monde de la musique. La violence entre bandes, la drogue.
Et Monnier, il a dit c'est le premier vendredi du mois. Ça veut dire les salaires, ils sont tombés. Donc tu perds pas de temps entre les clients, d'accord ?
Les règlements de compte.
Et trouvez-moi un tapin qui nettoie ce bordel, là, c'est quoi ça ?
Un décorum souvent très cru, mais réaliste, et validé surtout par les stars du rap qui ont accepté ici de jouer leur propre rôle, de Kouchen à Soprano, en passant par Lacrim ou Nino. 10 épisodes remplis de musique et de rebondissements, les stratégies des maisons de disques, l'obsession du buzz et le cynisme d'un milieu souvent très dur, en dépit de personnages attachants. Clément Attic dans le rôle-titre, jeune rappeur des Yvelines qui crève l'écran, auteur de la plupart des morceaux.
Elle a fait ton temps, mais maintenant je prends ta place. Et même s'il faut t'éteindre, moi je
prends. Et c'est validé, une saison 2 est attendue dès l'an prochain sur Canal+.
Voilà, du bon son, des vedettes, ouais. Des clashs, 10 millions de vues en l'espace d'une semaine.
Merci Jérôme Cadet.